Le brunch. L'émission qui met en lumière ceux qui font l'actualité à Toulouse et la région. Le brunch.
Je vous souhaite la bienvenue à notre émission Le Brunch sur les ondes de Radio Access Sud, l'émission qui toutes les semaines met en lumière celles et ceux qui à leur façon font l'actualité sur Toulouse ainsi que sur toute la région. Je suis ravi de vous retrouver en studio après être parti pendant une petite semaine à l'extérieur et nous aurons l'occasion d'ailleurs de vous remettre sur notre site internet notre émission spéciale femmes avec les Toulousaines, des femmes au destin exceptionnel. Eux aussi ils ont des destins exceptionnels, ils les reçoivent ce matin. Ils ont fait de leur passion leur métier ou de leur métier leur passion, je ne sais pas comment on peut tourner cela. On va discuter cuisine, on va discuter également technique vocale et de la voix et du chant notamment. Et puis nous partirons en voyage, en balade, comme chaque mois, en compagnie de notre chroniqueuse qui est avec nous, notre Julia Roberts toulousaine. Voilà, c'est notre sommaire de cette émission. Let's go, jingle, c'est parti. Notre premier invité, il a un style absolument génial, je pourrais le qualifier de John Steed toulousain à sa façon, et c'est un spécialiste de la cuisine, de la restauration. On va nous parler de ça tout de suite. Je suis en compagnie de Laurent Humbert. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Alors Charlie, je suis ravi de te recevoir, traiteur à votre image, LVH traiteur. Alors tu as été notamment, tu as obtenu le Wedding Award en 2022-2023, également le Green Trophy 2022, décerné pour une démarche éco-responsable, et chef Eurotoc 2022. Ouais. Et donc, c'est encore mieux que, je dirais, un militaire. Est-ce que toi, tu vas nous parler de ton métier en tant que traiteur, mais la cuisine, la restauration, c'est venu à toi très tôt, me semble-t-il.
C'est venu à moi très tôt, oui, dès l'âge de 12-13 ans.
Alors, c'était quoi? Est-ce que c'était parce que tu voyais maman, mamie, papa qui est en train de cuisiner, peut-être, à la maison?
Absolument pas du tout.
Ah, c'est ça que j'adore.
Voilà, ça, c'est très marrant parce que tout le monde te dit « Ah, ben moi, je cuisinais avec ma grand-mère ». Non, alors pas du tout. Je cuisinais avec personne. Je cuisinais tout seul. Mais ça m'a toujours inspiré parce que c'était le champ des possibles est énorme. Voilà. Et comme je suis quelqu'un d'assez curieux, du coup, je me suis dit « Non, là, il faut aller dans cette voie-là. Ça peut être très marrant ». Et du coup, à 12-13 ans, j'ai déjà commencé à attraper des casseroles à ma mère et commencé à faire la cuisine avec elle.
Elle cuisinait pas du tout, maman, à l'époque ?
Si, maman cuisinait, mais c'est pas ça qui m'a inspiré.
Ouais. D'accord. Et donc, tu as fait des stages découvertes à l'âge de 13 ans, mais dans le domaine du service, me semble-t-il.
C'est ça, exactement. Mmh. J'ai commencé par ça. J'ai dû faire une semaine, puis au bout d'une semaine, je savais porter 5-6 assiettes. C'est pas quelque chose que je dis, bon, allez, il n'y a plus rien à découvrir, on va faire autre chose. Et j'ai demandé à prolonger mon stage à l'époque. Normalement, c'était pas faisable sur la deuxième semaine des vacances, je crois, de mémoire. Et ils m'ont dit, bon, ben ok, tout ça. Et puis, donc, du coup, je me suis retrouvé en cuisine et je me suis éclaté.
Oui, c'est là que en fait la passion de la cuisine est venue. On sait que c'est un métier quand même qui est relativement difficile, avec beaucoup de discipline, mais c'est presque militaire, on peut dire.
C'est complètement militaire, complètement.
Et alors justement, tu as eu des chefs qui étaient durs ou au contraire qui t'ont pris sous leur aile.
Y a les deux, et il y en a qui étaient durs et qui m'ont pris sous leur aile. on a les deux, oui, des chefs très connus. Hein. J'ai fait ça pendant, j'ai fait de l'étoilé pendant une douzaine d'années. Donc effectivement, je suis passé par les mains de plusieurs chefs où j'ai pris à chaque fois ce qui m'intéressait. Et puis après, je suis allé voir un petit peu ailleurs, mais... Mais oui, c'est, de toute façon, tous les chefs sont très exigeants, et c'est ce qui m'a plu aussi, si tu veux, cette exigence et cette rigueur, qui est oui, parfois un petit peu difficile, et difficile à supporter quand tu es jeune, mais finalement, avec la passion, tout passe.
Et alors les parents, lorsqu'ils ont su que tu voulais partir dans la voie de la restauration, de la cuisine, c'était quoi leur réaction ?
Écoute, alors mon père était architecte, donc on reste dans le, on va dire, on reste dans le design et dans l'art. Mm-hmm. Donc, ils s'en foutent un petit peu.
Et maman.
Et maman m'a dit, écoute, ça te plaît, fais ce que tu veux.
Alors, on peut dire quand même que derrière chef de partie, un étoilé, tu en as un petit peu évoqué. Comment ça s'est passé ce parcours-là?
J'allais dire très compliqué, mais en fait, pas tant que ça. Au début, je suis rentré, j'ai commencé par faire la plonge, parce que j'ai dit, il faut que je regarde aussi comment on lave les gamelles avant de dire au mec qui les lave, elle n'est pas propre. Et donc, j'ai eu la chance de passer par tous les postes à nettoyer, jusqu'à chef d'étoilé on va dire, assistant, tu vois, correspondant pour un MOF qui...
C'était sur Toulouse ?
Non, c'était au Luxembourg.
Ah oui, d'accord.
Et puis voilà, puis plusieurs chefs avec qui j'ai pu grimper les échelons et voir vraiment toutes les parties de la cuisine, de la restauration et d'une brigade.
Est-ce que tu as des chefs qui t'inspirent, qui t'ont inspiré et qui t'inspirent toujours d'ailleurs ?
Il y en a plein. Michel Guérard, qu'on a perdu il n'y a pas très longtemps,
c'est là, vrai.
Avec qui j'ai eu la chance de travailler quelques temps.
D'accord.
Gilles Goujon, qui est aujourd'hui le meilleur chef au monde.
Fonjoncouze, voilà, l'auberge du Vieux Puy.
Exactement, voilà. Ouais. Mais on parlait de chef dur. Voilà.
mais
tellement doué. Tellement doué, ouais, j'ai appris énormément de choses. Et après, j'ai beaucoup appris aussi avec Patrice Andrieux, qui était chef consultant. Et c'est avec lui que je suis allé au Luxembourg, aux Maldives, etc. Enfin, voilà, plein de petites destinations bien sympas, où justement on remplaçait les chefs qui partaient sur des émissions radio, des émissions de télé, des MOF, etc., qui avaient aussi beaucoup de choses à gérer. Ben voilà, nous, ça nous arrivait de tenir les cuisines sur des temps assez courts, ce que j'aimais bien parce que je suis très curieux et un petit peu instable.
Donc, second en bistrot également, c'est autre chose, là, par contre.
Alors, le bistrot, c'est ce que j'appelle le petit gastro. Donc tu t'inspires beaucoup du gastro. C'est un petit peu plus souple, si on peut dire ça comme mot, si tu veux, tu vois.
Au niveau de la présentation, de l'exigence ?
Exigence non, présentation oui. C'est surtout au niveau de la recherche, où tu vas avoir un petit peu moins de recherche. Le bistrot va tirer un petit peu plus sur le tradit, on va s'inspirer un petit peu plus des recettes traditionnelles et on va juste les adapter un petit peu. Alors que le gastro, c'est vraiment de la création. Voilà la différence.
D'ailleurs, est-ce qu'il y a une différence ? Parce qu'on commence à parler beaucoup, c'est à la mode, des fameux bouillons. Est-ce que bouillon et bistrot, c'est la même chose ou sont deux choses différentes ?
Alors, pour ma part, c'est deux choses différentes.
D'accord.
Un bouillon, c'est un tradit bien fait avec de bons produits. Voilà, c'est ce qu'il faut. Il faut aller manger là. C'est très bien. Un bistrot, c'est déjà un petit peu plus de recherche dans la cuisine. On a passé le traditionnel. Voilà, dans le bistrot. On va aller découvrir des choses. On va aller. Le cuisinier va s'amuser aussi à trouver des astuces pour faire des choses un petit peu différentes, voilà, avec la recette traditionnelle. Le bouillon, c'est la recette traditionnelle, le bon produit, c'est toutes les cases cochées pour que tu manges super bien et à ta faim.
Alors, l'aventure LVH Traiteur que tu as montée avec ta sœur Véronique, c'était en 2014. Pourquoi ce choix de monter un traiteur alors que tu aurais pu continuer ta carrière dans l'hôtellerie, dans la restauration traditionnelle ?
En effet. Alors, comme je t'ai dit, moi, je suis très curieux, donc je suis allé voir un petit peu tout. Je suis même passé par une case, j'étais directeur d'une cuisine centrale.
Ah oui ?
Donc, pas longtemps, hein, mais c'était pour voir ce que c'était. Bon, je cuisinais pas assez, et puis pas ce que j'aimais, donc je suis vite parti. Mais,
oui,
mais
bon,
je suis passé par là, j'ai appris aussi des choses et des trucs, tu vois, donc ça, c'est chouette. Et en fait, pourquoi j'ai pas monté un restaurant ? Parce que je me suis dit, si je monte un restaurant, je vais aller chercher l'excellence, ce que j'ai toujours fait. Et bref. et je me suis dit, je vais dormir là. Et finalement, je vais attirer une clientèle un petit peu trop ciblée, un petit peu trop élitiste. Enfin, élitiste. Et donc, j'ai dit, non, en fait, ce que j'aimerais bien plutôt, c'est montrer la gastronomie, mais plutôt à des gens qui ont pas forcément, qui sont pas forcément très très aisés et qui veulent pas forcément mettre 200, 300 ou 400 balles dans un menu. Mais pourquoi pas montrer aussi à ces gens-là la gastronomie. Le fait d'être traiteur, au départ, je me suis dit, on est traiteur, on va pas aller chercher l'étoile, ça n'existe pas, on va pas aller au Goemio, ça n'existe pas, on va pas... Voilà. Tout ça, on est tranquille, quoi.
Oui, mais en fait, il y a quand même des étoiles, 4,9 sur mariage.net et même 5 étoiles sur Google, quoi. Ça va.
Oui, c'est pas mal. Et puis, je vais te donner un scoop aussi. C'est que je suis rentré au Goemio l'année dernière.
Ben voilà. donc c'est le meilleur, quoi.
Et cette année, ils m'ont recontacté et je suis le seul chef privé de la Haute-Garonne à rentrer au Goemio là, à partir de mai 2025.
Qu'est-ce qui te motive, justement ? Qu'est-ce qui te plaît dans cette aventure du traiteur ? C'est-à-dire, on dit bien que c'est un traiteur à votre image. C'est-à-dire qu'à chaque fois...
À votre écoute aussi.
À votre écoute. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as quelqu'un, tu t'adaptes à lui, à ses goûts, à ses demandes.
Complètement. En fait, c'est ce qui est génial en traiteur, c'est que déjà, tu n'es jamais au même endroit. Tu n'es jamais dans la même cuisine. Et comme je te dis, moi, je suis quelqu'un de... Voilà, il faut que je bouge, il faut que ça bouge.
C'est déstabilisant parce que des fois, on n'a pas les mêmes façons de travailler, on n'a pas les mêmes produits, on n'a pas non plus le même matériel.
Ouais, mais c'est ça qui est génial, c'est l'improvisation, tu vois. Voilà, c'est ça qui est chouette.
L'improvisation tout en ayant la rigueur, c'est quand même c'est ça qui est aux antipodes.
Oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est justement ça qui est chouette.
Alors donc, comme je disais, traiteur à votre image, à votre écoute, c'est-à-dire que outre le fait qu'on ne va pas retrouver les sempiternels mêmes produits, c'est que toi, tu as une idée de ta cuisine, tu sais ce que tu vas apporter, mais le client de son côté, il a son goût, ce qu'il aime. Et il va falloir que tu réussisses à retransmettre le goût du client dans l'assiette que tu vas lui proposer. C'est un sacré challenge quand même.
Oui, alors c'est un challenge à chaque fois et c'est justement ça qui est chouette. C'est que ben c'est d'ailleurs pour ça que je me qualifie plus de chef privé que de traiteur, parce que j'ai des amis traiteurs qui sont très gros, qui font beaucoup de prestations, etc. Et qui ont des commerciaux, parce qu'il faut vendre, etc. Moi, j'ai pas de commerciaux, moi, c'est moi le commercial. C'est moi qui vais voir les clients. Pourquoi ? Parce que quand on arrive face à eux et qu'on leur dit, on a une recette, ok, moi, j'aime pas le poivron. Ok, mince, alors qu'est-ce qu'on fait ? Et si tu es commercial, tu peux vendre n'importe quoi, mais à un moment donné, il faut quand même avoir une certaine technique. Et donc ça, beaucoup plus facile pour moi. Et effectivement, c'est ça qui est chouette, c'est qu'à l'instant T, on arrive à sortir une recette est vraiment à leur image, à leur goût, et avec mon écoute.
Donc pour les repas d'affaires, pour les séminaires, pour le familial, donc les mariages, etc. Et petites fêtes privées aussi ?
Bien sûr, on fait... tout. À partir du moment où les gens veulent bien manger, je suis là.
C'est tout simple. Est-ce qu'il y a des tendances 2024-2025 de produits qui reviennent cette année ?
Alors, on a beaucoup de produits crus cette année qui reviennent. Beaucoup de
tartare.
Produits crus. Ouais, tartare, ceviche, des choses un petit peu plus fraîches, un petit peu moins compliqué d'accès pour les gens.
Et les produits, comment tu les choisis ? Parce qu'on sait que tu travailles avec des meilleurs ouvriers de France, dont Eric Fabre, qui est chroniqueur ici, meilleur ouvrier de France, fruits et légumes. Comment tu fais pour le choix de ces produits-là, en l'occurrence ?
Alors, par exemple, si on parle d'Eric, on se connaît depuis très longtemps et on travaille ensemble très souvent. Et j'ai la chance avec lui de pouvoir sélectionner tous nos produits, fruits, légumes, etc. Donc on travaille avec lui. Et justement, il va me dire, tiens, là, on a un producteur, un truc, tu devrais aller voir. Très bien, mais on tape à la porte et on va voir. C'est ça qui est génial aussi. Tu vois, quand tu as un restaurant, tu n'as pas forcément le temps. Il faut qu'en une journée, tu réussisses à concentrer ta visite des producteurs, des trucs. Moi, j'y vais quand je veux et quand ils peuvent, surtout.
C'est ça.
Pour ne pas les embêter aussi. Donc ça, c'est bien. Parce qu'on va aller caresser les vaches, les cochons, etc. Mais on va aller choisir les produits comme ça. Donc ça, c'est génial parce qu'on va sélectionner des producteurs. On va voir avec eux et puis on va les voir sur place. Parce que ça, c'est très important. C'est très important parce qu'on va voir comment ils sont élevés. On va voir comment le producteur y travaille.
Tu sources en local ?
Je source en local au maximum.
Au maximum. Et justement, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se passe actuellement avec nos agriculteurs ? C'est un sujet un petit peu glissant, mais je pense que c'est quand même très important d'en parler.
Oui, c'est très important. Alors, comme tu as dit, moi, je suis chef Eurotoc France. Chef Eurotoc France, une de nos premières lignes de conduite, c'est justement de défendre l'agriculture. Parce que sans l'agriculture, on n'a rien et on ne mange pas. Donc effectivement, alors nous, on est à fond dans ce soutien des agriculteurs parce que c'est primordial. C'est primordial et c'est de plus en plus compliqué pour eux. Mais c'est un sujet important.
Oui, c'est quand même très important. Tu es avec ta sœur Véronique, comme je le disais. Ouais. Est-ce que chacun a sa partie du traiteur, du travail, ou est-ce que vous travaillez ou fusionnez ensemble sur toutes les recettes ?
Alors, on fusionne sur toutes les recettes. Alors, c'est de temps en temps, c'est elle qui va en amener une. Souvent, c'est moi qui en amène parce qu'effectivement, c'est moi qui ai la créativité et on va dire le parcours pour réussir à inventer des choses un petit peu bizarres.
Elle est aussi dans le domaine de la restauration quand même, donc elle est issue de ça.
Exactement, oui, elle est dans le domaine de la restauration depuis plus de 20 ans.
D'accord.
Et justement, donc elle, c'est mon chef exécutif, on va dire, sur le... Donc elle gère vraiment toute la partie prod, toute la partie personnelle aussi, et moi, je gère plutôt le côté commercial, image et produits de base.
Donc tu as déjà du calendrier qui est bien plein sur 2025 ?
Oui, 2025, on est plein jusqu'à fin septembre, début octobre même.
Ah, c'est une très très bonne nouvelle, ça. Donc c'est-à-dire que là, par contre, si on veut quelque chose pour septembre, c'est un peu mort, quoi.
En semaine.
C'est possible en semaine. Et justement, la question qui me vient derrière, c'est de se dire au niveau du rayon d'action. Est-ce que tu es sur Toulouse, la région, tu peux aller au-delà, comment ça se passe?
Oui, alors un traiteur pur, un mariage, etc. On fait quand même 150 km à peu près autour de Toulouse, donc c'est assez large. Après, un chef privé, je vais partout. Ben, je peux aller à Monaco, je peux aller à Paris, aucun souci.
Oui, ça veut dire qu'en fait, en gros, on t'appelle pour cuisiner, donc tu vas cuisiner chez le particulier directement, c'est ça?
Ouais, c'est tout à fait ça. On va sélectionner les produits. La première chose, hein, vous avez un marché en bas de chez vous? Ouais, c'est ma première question. Voilà. Et après, on s'éclate. Donc, c'est très facile.
Ça, je trouve ça absolument génial. Est-ce que tu as une recette fétiche?
Alors, une? Non. J'en ai plein.
Mais il faut en choisir une.
Ah, il faut en choisir une. J'aime bien travailler la souris d'agneau.
Oh là là là. Tu la cuisines comment?
Alors, on la cuisine avec une cuisson, ce qu'on appelle une cuisson lente, donc une cuisson en dessous de 130 degrés. Et donc, c'est très, très, très fondant. Et puis, ça cuit entre 10 et 12 heures en plusieurs fois.
Ah oui, quand même.
C'est génial.
C'est quoi? C'est dans des fours, dans des étuves? Comment ça fonctionne?
Alors plutôt dans des fours, ouais. Dans des fours. Et voilà, avec une température. Alors, quand je dis, on ne dépasse pas 130 degrés, on les cuit en trois fois en général et on fait 4 ou 5 degrés différents à chaque fois.
Donc, la bonne cuisine prend du temps.
La bonne cuisine prend du temps. Oui, la bonne cuisine prend du temps.
Alors, je vais te poser 2-3 questions, histoire de voir un petit peu qu'est-ce que ça peut donner. Si, je veux dire, un plat pour une première rencontre avec madame ou monsieur, qui l'on est, ça serait quoi, le plat idéal?
Alors, le plat idéal, on en a parlé tout à l'heure dans le cru, mais tu vois, on va dire un carpaccio de Saint-Jacques bien travaillé avec 3 agrumes et un petit peu de capre, c'est génial.
Je vois qu'il y a des signes approbateurs ici dans les studios. Et le repas qui nous rappellerait l'enfance, nos parents, nos grands-parents, ça serait quoi?
Alors, très facile, la blanquette de veau.
Là aussi, cuisson lente.
La blanquette de veau, alors non, mais cuisson bouillie, la blanquette de veau. Et après, juste pour la petite histoire, moi, ma recette de grand-mère, c'est la langue de bœuf.
Que tu cuisines comment?
Que je cuisine pas. Je la cuisine pas, tu sais pourquoi? Parce que, en fait, je n'arrive pas à reproduire la recette de ma mère. Donc, j'ai décidé de ne pas cuisiner la langue de bœuf, parce que je n'arrive pas à reproduire cette recette-là.
Et c'est un défi. Alors, toi qui as un défi, il va falloir t'y mettre, là.
Ouais, mais je m'y mets tout le temps. Hein. Tous les ans, je recommence, mais je n'y arrive pas. Parce que, en fait, toutes les recettes sont différentes en fonction de qui cuisine. Ça, les gens ne savent pas forcément.
Et le bon plat qu'on pourrait se faire entre amis, pour une très bonne soirée, un samedi soir ou un dimanche midi?
Ah, alors, on est à Toulouse ici, donc le cassoulet est un incontournable. Mais voilà, ça c'est vraiment un incontournable des soirées festives, où on peut s'amuser. C'est très facile à faire. Enfin, c'est très facile à faire. Non, c'est pas facile à faire, mais en tout cas, c'est faisable bien avant. Donc après, on est tranquille avec nos invités.
Donc on casse la croûte cette fois, c'est ça?
C'est vrai. Tu sais tout déjà.
Ouais, ce sont des choses que l'on dit, c'est ça? Toi, tu le fais porc et canard?
On fait porc et canard. Ouais. Porc et canard, c'est très bien. Et avec, bien sûr, des cuissons différentes et à chaque fois. Et puis, effectivement, on casse la croûte et on refromage, et etc. 6 ou 7 fois, c'est vrai.
Voilà qui nous a envie de te découvrir davantage, de faire appel à tes services. D'ailleurs, si on a besoin d'un renseignement, site internet, réseaux sociaux?
Site internet, www.lvhtraiteur.fr, réseaux sociaux, Facebook, Insta. Oui, on essaye d'être un petit peu partout. À la pointe, non, mais partout, oui.
En tout cas, tu nous as envie de découvrir de nouveau le domaine de la restauration, qui est un domaine qui a eu beaucoup de difficultés ces dernières années. Ouais. Et comme tu dirais, toi, la meilleure recette est celle qui vient du cœur. Et ça, je trouve que c'est une très, très belle signification. En tout cas, on aura grand plaisir de te retrouver prochainement. Voilà, peut-être à te découvrir en action directement avec une petite vidéo.
Ah oui, avec
joie. Je pense qu'on pourrait essayer de faire ça prochainement.
Très bien.
N'est-ce pas, Laurent?
Je suis preneur.
Merci beaucoup.
Avec grand plaisir, merci à toi.
Je me souviens des trajets en vélo pour se rejoindre sur le sable, le soleil sur nos peaux, le goût salé des vagues, les feux du 14 juillet et nos glaces qui coulaient. Assis sur le perret et nos faces qui bronzaient, on se retrouvait au club de plage. Pas de plan sur la comète, juste des enfants de passage. Des rêves plein la tête, on séchait sous les parasols. On aimait regarder le ciel comme des gamins qui s'envolent. J'aime te voir danser sur les tables comme un gamin heureux, comme un enfant de passage. J'aime nous voir chanter nos âges comme des enfants joyeux, comme des gamins des sables, comme des gamins des sables, comme des gamins des sables. T'as vu comme on a grandi, toujours deux poissons dans l'eau. On habite au paradis, de la teste au moulot. Je me souviens des pinasses, accostées sur le banc, le cap ferré en face. Les trampolines d'avant, chez nous ça rigole. C'est l'histoire de nos vies, de gamins qui s'envolent. J'aime te voir danser sur les tables comme un gamin heureux, comme un enfant passage. J'aime nous voir chanter nos âges comme des enfants joyeux, comme des gamins des sables,
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 comme des gamins des sables. Regarde comme le temps passé nous guette sans jamais ce qu'on a voulu donner. J'aime te voir danser sur les tables comme un gamin heureux, comme un enfant passage. J'aime nous voir chanter nos âges comme des enfants joyeux, comme des gamins des sables. J'aime te voir danser sur les tables comme un gamin heureux, comme un enfant passage. J'aime nous voir chanter nos âges comme des enfants joyeux, comme des gamins des sables,
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 comme des gamins des sables.
Le brunch. Le brunch, l'émission qui met en lumière ceux qui font l'actualité à Toulouse et la région. Oh yeah. Le brunch.
Et on va parler également d'un autre domaine, un métier passion, un métier qui devient une passion. Et c'est vrai que lorsqu'on a la chance de faire quelque chose qui nous passionne, ben, on n'a pas besoin de se dire « je me lève difficilement pour aller au travail parce que finalement j'exerce ma passion ». Et c'est le cas de la dame qui est à côté de moi, qui justement nous parlait de la voix, juste en compagnie de Stéphanie Dumouche. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Charlie.
Je suis ravie de te recevoir, coach vocal. Mais technicienne de la voix, quelle est la différence d'ailleurs entre technicienne vocale et coach de la voix?
Ah oui, c'est une sacrée question ça. Oui. Alors j'ai envie de retourner un petit peu la question, tu vois, autour de c'est quoi un prof de chant, c'est quoi un prof de technique vocale et c'est quoi un coach vocal. En fait, je pense que c'est ça, non, dont on parle.
Ah oui, on peut commencer par ça, c'est bien, on inverse la tendance dans ces cas-là. Je me laisse faire, alors je vous laisse faire, ma chère.
Alors non, j'ai envie de dire que le prof de chant, il va travailler que sur la voix chantée déjà.
D'accord.
Donc il va avoir un champ de compétences très large, puisqu'il y a à la fois la partie technique de la voix, mais toute la partie musicale aussi, scénique, etc. Et il va vraiment travailler sur tous ces aspects-là. Le prof de technique vocale, il est beaucoup plus axé sur le geste.
D'accord.
Donc là, c'est vraiment hyper précis, comment est-ce qu'on va respirer en fonction des contraintes vocales, tu vois. Donc c'est toute la partie mécanique, je dirais, fonctionnelle. Et le coach vocal, il est quelque chose qui va être one shot, rapide. Tu vois, il a un objectif très rapide sur un temps déjà défini, très court. Mm-hmm. Et donc, il doit aider le professionnel de la voix, parler ou chanter, peu importe. Mais il a un objectif bien précis sur à court terme. Donc là, il faut être hyper précis et efficace.
Le chant est venu à quel moment dans ta vie?
Ouh là là, très tôt. Je chante depuis que je suis née, je crois.
D'accord.
Voilà.
Il y avait du monde qui chantait à la maison ou pas du tout?
Absolument pas.
un petit peu comme Laurent finalement, hein. C'est génial de voir l'interaction entre les invités. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie? C'est ce que t'écoutais à la radio ou peut-être des vinyles ou des cassettes à la maison?
Ouais, je crois que mon père avait une collection de disques, 33 tours, 45 tours, alors de son époque, bien entendu. Mais j'ai toujours été un petit peu, c'est vrai, bercée par la musique, parce qu'on écoutait quand même la radio, la musique à la maison. Et oui, bah, petit à petit, j'écoutais mes chanteurs, mes chanteuses préférées.
Qui était qui à l'époque?
Ah, Whitney Houston, bien
ah,
sûr.
Ben, oui.
Allons-y, Madonna, Jeanne Masse aussi, dans un répertoire un petit peu différent. J'écoutais vraiment de tout, mais voilà, après le côté chanter, ben, c'est venu naturellement en fait. Je crois un petit peu comme bon nombre d'entre nous, on chantait dans la salle de bain pour commencer.
Oui, il y avait un écho quelque part, donc ça faisait le travail.
C'est ça, c'est très pratique, la réverbération est quand même naturelle, est assez présente. Donc c'est vrai que ça a été, les premiers débuts, ça a été ça.
Mais il me semble qu'il y a eu un petit passage par de la danse avant de se mettre vraiment au chant, n'est-ce pas ? D'abord danseuse avant de devenir chanteuse, est-ce que c'est vrai ça ?
Et oui, c'est vrai. Donc, j'ai commencé la danse aussi très tôt. Hein, bon, voilà, hein. Une petite fille qui commence la danse et puis qui se prend de passion par la danse, qui va tout mettre en œuvre pour devenir prof de danse. Donc j'ai passé mes diplômes, j'ai commencé à enseigner en tant que prof de danse. En parallèle, c'est vrai que je dansais déjà dans des groupes de musique qui avaient besoin d'un petit peu d'activité, voilà, de spectacle, on va dire, accompagné de musique. Donc j'étais danseuse et puis comme il y avait des chanteurs, il y avait des chanteuses, il y avait des musiciens, mais spontanément en fait, le chant, la musique m'a appelée, même si déjà à travers la danse il y avait ce côté artistique, mais j'ai eu envie de tester, simplement.
Il y a quelqu'un qui t'a propulsé, qui t'a un petit peu poussé pour ça, non ?
C'est ça. Disons que les chanteuses du groupe avec lequel je travaillais m'entendaient des fois dans les loges en train de chanter. Ils me disaient, mais tu devrais peut-être pousser la chansonnette. Et c'est ce que j'ai fait. Et spontanément, sur des moments un peu off, on va dire, on s'amusait ensemble à chanter. Et puis voilà, puis un jour, je me suis lancée. Je me suis dit, ben, pourquoi pas moi, après tout. Donc voilà, j'ai passé une audition, j'ai été prise à ma grande surprise et je suis devenue chanteuse professionnelle.
Donc c'est quelque chose qui a duré quand même pas un certain nombre d'années, plus de 10 ans, 15 ans, c'est ça ?
Ah oui, même 20, hein,
je dirais. Même 20 ans. Et qu'est-ce qui fait qu'on décide un jour de se dire « je stoppe la scène en tant que chanteuse et j'ai envie de transmettre mes connaissances ?»
C'est vrai que j'étais déjà quand même dans l'idée de la pédagogie, puisque enfant, je voulais être maîtresse d'école.
Oui.
Ensuite, j'ai passé mes diplômes pour être prof de danse. Mmh. Naturellement, en fait, la scène m'a donné énormément de clés pour être sur la partie artistique et tout ça, mais il me manquait la transmission, en fait. Mmh. Et spontanément, en fait, avec les années de pratique, j'ai eu envie. Ça, c'est comme si ça revenait à moi, finalement. Il y a eu cette envie de transmettre la voix, ce nouvel instrument.
Donc, comment on devient prof ? Parce que là, on a beau avoir les connaissances, et tu sais qu'il y a énormément de professeurs en France, de coachs vocaux. La difficulté, c'est de dire que parfois, on peut se faire mal aux cordes vocales quand on n'est pas sur le bon professeur. Et ce n'est pas toujours évident. Mais comment on fait ? C'est-à-dire qu'il y a des formations pour ça ? Pour connaître un petit peu la technicité, la voix, l'outil également au niveau physiologique ?
Oui, tout à fait. Il y a des formations qui permettent de se former, en effet, à toutes ces parties-là, c'est-à-dire la physiologie, l'anatomie, l'acoustique aussi, la pratique et la pédagogie, bien entendu. Parce que on a beau être très bon chanteur professionnel ou très bon chanteur, même si on n'est pas professionnel, peu importe, on a beau avoir un très bon niveau vocal, c'est pas pour ça qu'on va être un bon prof, parce que la transmission, c'est encore notre volet de l'histoire. Et donc oui, il y a des formations, et notamment une que je propose à Toulouse. Voilà.
Donc toi, tu en proposes plusieurs, c'est ça en fait ? Tu as plusieurs types de formations que tu proposes ?
Alors oui, c'est-à-dire que je propose une formation pour les profs de chant, de technique vocale et les coachs vocaux. Donc ça, c'est un cursus entier sur 10 mois. Mais après, j'ai aussi ma casquette de prof de technique vocale et coach vocal aussi. Voilà, où là, j'ai une école.
Et là, par contre, c'est plein de chez plein.
C'est ça. Tellement plein qu'on a, on est nombreux à donner des cours dans l'école.
Comment ça se fait d'ailleurs qu'est-ce que l'élan au niveau du chant ? Est-ce que c'est dû aux émissions qu'on voit à la télévision qui ont fait que justement de plus en plus de personnes ont décidé de prendre des cours, de se perfectionner dans le but peut-être de devenir chanteur professionnel aussi ?
Je pense qu'il y a une part de ça, en effet. Toutes les émissions, il y en a eu de plus en plus. Entre The Voice, entre Nouvelle Star, etc., etc., Pop Star même à l'époque. Et c'est vrai que de plus en plus de personnes sont dans cette démarche de peut-être de carrière ou l'envie d'être sur scène, d'être peut-être star aussi, je sais pas. Hein, mais
c'est quelque chose que tu aurais voulu faire, passer ces auditions à l'époque, si ça avait été.
Je crois pas.
Non.
Je crois pas, j'étais dans une autre démarche en fait, pas forcément dans l'idée d'être devant, d'être connu, voilà. Plutôt l'envie de bien faire, d'être carré, tu vois, c'était plutôt ça ma démarche. Et j'ai envie de dire que ce qui m'a plu dans une partie de ma carrière de chanteuse, c'était justement d'être choriste. Donc en fait, derrière, tu vois, derrière l'artiste pour servir et le au contraire, soutenir. Voilà, le soutenir exactement. D'accord. Et apporter de la richesse harmonique, etc.
Oui, encore une histoire de transmission, hein, quand même, qui revient toujours, hein, quelque part, d'aide, de transmission. C'est quelque chose qui t'a suivi depuis toujours.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un chanteur est un bon chanteur à aujourd'hui? C'est une question qui est vaste, hein. Vous avez une heure pour faire le sujet, oh, je plaisante.
C'est ça.
Non, c'est vrai, parce que quand on dit « oh, il a une jolie voix » ou « elle chante bien », « ah ouais, là, par contre, il y a quelque chose », ça passe par quoi? Ça passe par la voix, par l'émotion, par la technique, c'est quoi?
Oui, c'est une très bonne question. Je pense que c'est un ensemble, et puis aussi le fait de se dire qu'on n'a pas tous les mêmes critères, déjà, de base, pour dire est-ce qu'il chante bien, est-ce qu'il chante moins bien, est-ce qu'il va nous toucher ou pas nous toucher. Pour moi, c'est un ensemble de choses. Je dirais que, bien sûr, la technicité doit être présente parce qu'elle va permettre de permettre au chanteur de toujours être en capacité de faire ce dont il a envie au niveau vocal, tu vois, au niveau des notes, de tout ce qu'il a envie de développer. Et après, il y a évidemment toute la partie interprétation où là, l'émotion est au cœur de l'histoire, en fait. Mm-hmm. S'il n'y a pas d'émotion, même si on a de la technique vocale, pour moi, c'est pas la représentation, en tous les cas, ça m'appartient, mais ce n'est pas la représentation d'un bon chanteur.
C'est un peu creux, je dirais.
C'est ça, je préfère avoir quelqu'un qui va donner de l'émotion et qui sera peut-être un moins bon technicien, mais le message va passer et il va donner des frissons. Et pour moi, c'est plutôt ça. Je dirais que le bon chanteur, il est à la fois bon technicien, il est bon interprète, dans l'idée de transmission des émotions, etc. Et c'est quelqu'un aussi qui est en capacité de tenir la scène, showman, showgirl, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais voilà, je dirais ça.
Ce qui est très important de voir aussi, c'est que toi, tu travailles sur la voix parlée également, parce que c'est vrai qu'on a tendance à parler de la voix chantée, mais la voix parlée est très importante aussi.
Tout à fait. Et donc, je travaille avec des professionnels de la voix parlée, comme toi, Charlie, par exemple. Alors, on ne travaille pas ensemble, nous, mais...
Non, c'est vrai.
Voilà. Mais en tous les cas, je peux travailler avec des professionnels de la voix parlée, les avocats, tous ceux, en fait, qui utilisent leur voix parlée, tu vois, dans leur profession, de manière intensive, et qui ont besoin, parfois, d'être plus entendus, tu vois, d'avoir une meilleure projection, d'avoir une voix plus posée. Voilà. Et en ce sens, je trouve aussi que c'est un outil d'expression tellement complet, finalement, la voix, que tout le monde, finalement, aurait besoin presque de la travailler.
tu donnes des cours aussi particuliers, justement, pour la prise de voix en parole et puis, justement, pour pouvoir poser sa voix.
Tout à fait. Tout à fait. Cours particuliers plutôt pour la voix parlée, en effet, pour la prise de parole en public, notamment. Ouais.
Et pour celles et ceux qui, justement, veulent devenir professeurs, et c'est complet chez toi, donc tu as déjà toute une équipe qui travaille à tes côtés.
Oui, complètement. En fait, je travaille toujours dans cette idée de partage, d'échange, parce que ça fait partie de mes valeurs principales. J'ai besoin de m'entourer de gens pour proposer quelque chose qui soit à la fois pluridisciplinaire, complet, efficace, etc. Donc, dans ma formation de prof de chant, en effet, je travaille avec un chirurgien ORL, un ostéopathe, une orthophoniste, un ingénieur du son et une coach posturale.
D'accord.
Et donc moi-même qui m'occupe de la partie technique et pédagogique. Voilà, on est de nombreux professionnels en fait. Et ensemble, on construit un programme pour permettre aux futurs profs de chant ou de technique vocale, coach vocaux, peu importe, de pouvoir finalement avoir tous les aspects de la voix, de la partie anatomique à la partie pratique, finalement, et pour être après compétent à la sortie, puisque c'est une formation qui est sur un an, à peu près.
Ça se passe sur Toulouse ?
Tout à fait. D'accord. Ou en distanciel aussi.
Ou en distanciel aussi, oui.
Tout à fait. J'ai aussi le cursus 100% distanciel qui me permet de voyager de Tahiti à Singapour, en passant par Réunion et la Guadeloupe.
C'est le cas, t'as vraiment des gens de partout à travers le monde.
Exactement. Cette année, j'ai Tahiti, Singapour, la Réunion. C'est génial parce qu'on voyage, en fait.
Et tu as travaillé notamment à l'époque avec Richard Cross, n'est-ce pas?
Tout à fait, exactement.
Donc, qui était le coach vocal à la Star Academy.
Oui.
Oui.
Pas que, mais...
Oui, entre autres, oui, parce qu'on le connaît, il a été coach vocal également de oui. Michel Sardou, comme le fameux Pape Pi Popu, dont
exactement.
On parle souvent. Hein,
tout
c'est
à fait.
Ça, entre autres.
Tout à fait.
Et si on veut avoir des renseignements sur toi, sur les formations, etc., comment on doit procéder?
Alors, on peut passer par mon site internet, voilà. On peut aussi me contacter sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram également. Je pense que les adresses seront communiquées, j'ai pas besoin de les donner.
Exactement, tout à fait. Non, voilà. On rajoutera tout directement comme voilà. Il se doit derrière. Et un ou deux petits conseils pour les chanteurs et chanteuses éventuellement pour moins s'entretenir. Il faut chanter tous les jours, demi-heure par jour, c'est ça? Travailler sa voix tous les jours, c'est ça?
C'est une très bonne idée. Alors déjà, je dirais que le premier truc, c'est de penser à s'échauffer la voix.
Oui.
Hein, on ne chante pas ou on ne parle pas sans s'échauffer la voix. C'est mieux de s'échauffer, on va dire, voilà, pour plein de choses.
Oui.
Mais je dirais que le premier, ça serait ça. Et après, oui, avoir une pratique régulière, même si c'est sur une durée courte, c'est préférable que de grandes sessions, une fois par semaine. Non, on va plutôt faire trois fois par semaine des petites séquences de demi-heure, 45 minutes. Déjà, c'est super.
Et l'hydratation aussi, très importante, les cordes vocales.
Bien entendu. Bien s'hydrater, boire de l'eau, de préférence,
oui,
bien sûr.
C'est
voilà.
Ça.
Éviter tout ce qui est gazeux et tout ce qui est alcool, bien entendu. Et puis, bien s'alimenter, bien dormir, la gestion du stress, tout ça. Ce sont des facteurs aussi qui contribuent à la santé de la voix. Donc, savoir s'écouter, la voix, c'est nous, en fait. C'est juste ça.
Une bonne hygiène de vie, quoi.
Exactement. C'est la recette d'une bonne voix.
Ben en tout cas, un grand merci de nous avoir parlé de tout ça, chère Stéphanie. On te souhaite le meilleur, même si c'est déjà bien entamé. On est sur une autoroute, hein, on peut le lire à quelque part. Hein. Et on aura grand plaisir de te recevoir de nouveau, peut-être l'année prochaine, pour parler davantage de tes formations, n'est-ce pas?
Merci Charlie, merci. Merci à toi de m'avoir invité.
Avec grand plaisir.
J'ai ravie d'être avec toi.
Moi aussi, de même.
I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, not alone, I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Come along with me and don't be scared.
Call away, I'll be there to save the
Le Brunch. Le Brunch. L'émission qui met en lumière ceux qui font l'actualité à Toulouse et la région. Le Brunch.
Et nous allons retrouver juste derrière notre Julia Roberts, toulousaine. Elle est ici à nos côtés. Elle va nous amener en voyage. Elle va nous amener au voyage du côté du Japon cette semaine. On est très heureux de la recevoir. Et c'est bien sûr notre chère Myriam qui est à nos côtés. Myriam, bonjour ma chère, bonjour, elle s'installe,
j'arrive,
regardez-moi ça.
Je m'installe.
Ah oui, fais ça bien.
Est-ce que je m'hydrate? Parce qu'il faut travailler ma voix.
Je crois qu'il faut demander à Stéphanie juste avant, voyons. On part au Japon cette semaine,
on
c'est ça?
On part au Japon, direction la région du Kansai, qui est la partie historique et culturelle du pays. Mm-hmm. On est sur l'île de Honshu. Et il faut savoir que le Japon est un archipel qui est composé de 14 000 îles, dont 4 îles principales, qui couvrent à peu près 95% du territoire. Et l'île de Honshu fait partie de ces 4 îles. En superficie, le Japon, ce n'est pas un très grand pays. On est autour de 350 000 km², soit un petit peu moins que la France. Mais attention, c'est 124 millions d'habitants. Oui. Dont une grande partie qui vit sur le littoral autour de cette région donc, du Kansai dont je vais vous parler, donc du sud littoral du Honshu. On a à peu près 22 millions d'habitants rien que sur cette partie-là. Alors c'est vrai que de nombreux arts traditionnels sont nés dans cette région, à commencer par le théâtre no. Le théâtre no est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. C'est un art traditionnel qui remonte au 7e siècle. C'est un théâtre très intimiste, qui va jouer énormément sur la symbolique, qui va jouer sur la simplicité. C'est une alternance en fait de danse, de chant, de déclamation. On est dans des toutes petites salles. Il y a quand même encore aujourd'hui au Japon 70 salles qui permettent d'assister à ce spectacle, qui est un petit peu difficile peut-être pour nous les étrangers, parce que non seulement il faut maîtriser le japonais, mais le japonais ancien. Autre art traditionnel non négligeable, c'est le théâtre du kabuki. Alors là, c'est complètement le contre-pied. C'est l'exubérance, c'est l'excentricité. On place sa voix au perché. On va jouer avec énormément de théâtralité. Il faut savoir que les rôles ne sont joués que par les hommes, y compris les rôles féminins. Mmh. Voilà. C'est un théâtre qui se caractérise par des maquillages qui sont très expressifs.
Ah oui, on a déjà vu ça à la télévision.
Voilà, on le voit souvent, hein, ces maquillages et ces costumes qui sont vraiment très colorés, alors que dans le théâtre no, ce sont des masques qui forment un visage souvent blanc avec des traits très simples qui définissent 5 personnages différents.
Et puis, on peut parler de la cérémonie du thé également.
Alors, la cérémonie du thé, regarde, je t'ai amené un petit peu tout ce qui va nous faire plaisir pour cette cérémonie, à savoir un thé traditionnel que l'on appelle le thé matcha.
Oui, le fameux, on en parle beaucoup du thé matcha, pas vrai Laurent? Tu cuisines avec peut-être?
Le thé matcha. Ouais. Le thé matcha en fait c'est un thé qui est transformé en poudre. Et c'est un thé qui est utilisé pour la cérémonie traditionnelle du thé. Le thé a été importé de la Chine et s'est largement développé au cours du Moyen-Âge. Là encore, la tradition faisait que la cérémonie du thé était entre les mains des hommes. Et cela ne va changer que très récemment au 19e siècle. Donc ce sont essentiellement les bouddhistes, moines bouddhistes, et les samouraïs qui procédaient à cette cérémonie et qui consommaient ce thé matcha. Pour l'utiliser, il y a toute une sorte de rituel, il y a des ustensiles, et notamment quelque chose qui est assez beau. Je vous ai amené des petits objets parce que comme on a le direct sur Facebook, ça permet de voir...
Qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce que c'est ? Très, très beau. Ça c'est un fouet qui permet en fait d'émulsionner, parce qu'il faut vraiment l'aérer, il ne faut plus du tout qu'il y ait de grumeaux, et il faut que ce soit très léger, très souple en
D'accord.
bouche. Donc on va l'aérer, il va être un petit peu mousseux.
Okay.
Donc il y a vraiment tout un rituel, hein. La vaisselle que l'on va utiliser, les accessoires pour le servir,
la cuillère,
la tasse dans laquelle tu vas le boire, enfin voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très codifié, très spécifique.
J'adore, tu nous amènes le geste à la parole chaque fois.
Voilà, et on peut aussi trouver ces boîtes que l'on peut ramener, qui sont les boîtes traditionnelles pour conserver les différents thés. Et enfin, dernier art traditionnel qui est propre à cette région, le shintoïsme.
Qu'est-ce que c'est ?
Le shintoïsme, c'est une religion polythéiste qui est issue de l'animisme et du chamanisme. Mm-hmm. Cela veut dire que là, on a une relation à la nature et on considère qu'il y a des esprits dans chaque élément de la nature.
D'accord.
Et ces esprits, on les appelle les kami. quand on visite le Japon, il y a souvent, en extérieur, à l'entrée de certains temples, des petits autels avec une magnifique couleur orangée qui est caractéristique en fait donc de ces temples. Et le berceau du shintoïsme, c'est une petite ville qui s'appelle Ise et qui s'est développée il y a peu plus de 2000 ans à peu près. Et à Kyoto, vous avez un temple assez extraordinaire qui s'appelle le Fushimi Inari, qui est connu parce que pour accéder jusqu'au temple, il y a une allée qui vous accompagne avec des milliers de torii qui sont dans cette couleur vraiment incandescente, comme un soleil couchant, même si on est au pays du soleil levant.
On a l'impression d'y être déjà, voilà. Grâce à toi.
Mais c'est vrai que c'est énormément de poésie, de dépaysement. Alors comment on y va ? Alors aujourd'hui, c'est vrai que économiquement, finalement, c'est meilleur marché de passer par une agence de voyage.
D'accord.
Pourquoi ? Parce que les billets d'avion sont extrêmement chers. Depuis Toulouse, on va être obligé de transiter via Istanbul ou via Munich, parce qu'on n'a pas de vol direct depuis Toulouse. Ce sont des vols qui coûtent en moyenne autour de 1800 euros, l'aller-retour bien évidemment. Si on a le temps et qu'on accepte deux ou trois escales, on peut trouver des billets qui descendent à 700-800 euros l'aller-retour.
Et on passe par où ?
Alors, ben, on va passer où ? Par Francfort, et ensuite repasser par l'Asie centrale, ou passer par Dubaï. Enfin voilà, les liaisons aériennes sont assez variées. Sinon, on peut choisir aussi d'aller directement atterrir à Tokyo. Et là, à Tokyo, dans l'aéroport, il y a une gare avec un TGV qui s'appelle le Shinkansen, qui en 2h30 rejoint en fait Kyoto, et on peut démarrer ses excursions. Alors justement, que voir ? Bah, Kyoto, c'est la ville incontournable. Il faut savoir que c'est l'ancienne capitale du Japon. Elle a été capitale entre le 8e siècle et le 19e siècle. C'est une ville que l'on appelle la ville aux 1000 temples. Donc c'est assez extraordinaire d'aller découvrir les temples bouddhistes et les temples shintoïstes. C'est une ville dont beaucoup de monuments sont inscrits au patrimoine mondial de l'humanité.
Oui.
Et c'est une ville qui a connu une histoire assez similaire à ce qu'aurait pu être l'histoire de Paris pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce que figure-toi qu'avant que l'on décide de lancer les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, la cible était Kyoto.
D'accord.
Mais voilà, comme il y a eu de la part de certains hauts placés militaires la volonté de protéger Paris, il y a eu la même volonté de protéger Kyoto. Que. Et c'est ce qui explique qu'on peut bénéficier de ce patrimoine qui est assez extraordinaire. Donc Kyoto se situe dans le nord de cette région du Honshu. C'est pas très loin de la mer du Japon. Et on va découvrir un quartier traditionnel de Kyoto qui est le quartier de Gyon.
Ah, j'adore. Qu'est-ce que tu nous sors ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?
À Gyon, on y va pour les geishas et les maiko.
Oh, c'est trop mignon !
Les geishas sont appelés geiko dans cette région-là du Kansai. Les geishas, ce ne sont pas des prostituées, contrairement à ce que la mythologie ou la tradition ou les mauvaises langues colportent.
Parce qu'ils ne connaissent pas.
Ils ne connaissent pas. Geishas, ce sont des artistes et des artistes qui excellent dans tous les arts. Et il faut savoir que c'était un métier qui était réservé aux hommes, ce métier d'artiste qui excellait dans tous les arts jusqu'en 1750. Et là, les femmes vont accéder donc à cet art. Donc en fait, ce sont des artistes et des dames de compagnie dans des maisons de thé qui sont extrêmement luxueuses parce que leur savoir-faire et leur compagnie coûtent extrêmement cher.
D'accord.
Les maiko sont les apprentis geisha et elles se forment auprès de ces geisha en tant qu'assistantes. Donc c'est vrai qu'on a l'image de ces femmes avec ces perruques, avec tous les ornements dans les perruques. Il y a aussi ces magnifiques kimonos. Il y a plusieurs kimonos qui sont portés parce qu'il faut renouveler sa garde-robe. En moyenne, un kimono de geisha, c'est 6000 euros pièce.
Ah ouais.
Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment exceptionnel à cette culture et à ce savoir-faire. Alors ensuite, vous avez la ville de Nara, qui est une ville de temples et de sanctuaires. On s'y rend en train, on pédale parce qu'on peut louer des vélos. On peut s'équiper de ce petit éventail traditionnel pour aller circuler dans la ville. Vous avez la possibilité aussi de découvrir un mont qui s'appelle le mont Yoshino. Et ce mont, en fait, il est connu parce que vous avez des cerisiers, 30 000 cerisiers qui sont sur ce mont. Et l'un des moments phares vers lequel nous nous dirigeons à partir du mois de mars et début avril, c'est la floraison de ces sakuras qu'on appelle onami Et c'est une tradition de se rendre au pied des cerisiers, de pique-niquer et de vivre ce moment de beauté et de poésie et d'éphémérité qui est vraiment exceptionnel.
Beaucoup de respect pour la nature là-bas au Japon.
Beaucoup de respect pour la nature, c'est lié notamment à cette religion qu'est le shintoïsme, mais également au bouddhisme, hein, où chaque élément constitue un tout et l'humain n'est qu'un tout, n'est qu'un élément dans ce tout-là. Et pour finir, on va partir sur Osaka, qui est la ville qui est également desservie par le Kansai International Airport comme Kyoto, à 30 minutes à peu près donc, de cet aéroport. C'est une ville qui est connue pour son architecture plutôt civile, un immense château assez spectaculaire. Il y a aussi les studios Universal, donc tous les blockbusters américains bien sûr, on peut les découvrir, mais également tous les animés et dessins qui sont liés au manga et qui ont été mis en images animées. C'est 14 millions de visiteurs par an qui vont quand même à cet Universal Studio de Osaka. Et comme nous avions une chronique sur la gastronomie, Osaka est une capitale culinaire et notamment l'une des spécialités que l'on va retrouver mais partout sur le Japon, mais propre aussi à cette région, ce sont les pâtes qui sont faites à base de froment, donc de blé, et qu'on appelle les udon ou les soba. Et ça, c'est vraiment une base qui est incontournable de cette destination-là. Alors, si jamais vous n'avez pas l'occasion de partir vers le Japon, sachez qu'à Toulouse, nous avons labellisé jardin remarquable, le jardin japonais de Compense Caffarelli,
c'est vrai,
qui a été créé en 1981 et qui s'inspire des jardins de la villa Katsura à Kyoto. Donc, au mois de mars, allez voir Umani, donc les fameux cerisiers en fleurs, et je pense que vous serez conquis par cet environnement.
Eh bien, merci ma chère Myriam, on se retrouvera la fois prochaine. Est-ce qu'on connaît déjà la destination?
La fois prochaine, puisque nous étions dans une destination au Japon qui est une terre de pèlerinage, nous allons partir à quelques kilomètres de Toulouse pour le Puy Envelé.
Oh oui, c'est pas très très loin.
Et parler un petit peu du pèlerinage vers Compostelle et du culte de la Vierge Noire.
Toujours un grand plaisir de te retrouver, un puits de science, notre chère Myriam, quel bonheur. Voilà, c'est la fin de notre émission, j'étais ravi de passer ce moment avec nos invités. Petite information supplémentaire, cette semaine c'était la journée mondiale de la radio, pour vous rappeler que la radio existe depuis 1921 en France. La première émission c'était un 24 décembre 1921 avec Radio Tour Eiffel, depuis les grandes, les petites ondes, la FM en 1981 bien sûr, le DAB+, sur lequel nous sommes, Radio Accessu depuis 2019, le streaming sur internet, et puis c'est surtout un bonheur de vous retrouver chaque semaine, chaque jour, du dimanche au vendredi pour ma part ici même, vous dire que c'est l'équivalent de 40 brunchs par an, de 450 interviews par saison, et un plaisir renouvelé chaque matin de me lever à 3h45 pour pouvoir vous retrouver pour notre émission matinale. Vous savez, quand on est un passionné comme tous nos invités que nous avons ici, ce n'est que du bonheur justement. On fait un petit check avec nos invités. Nous avions ici Stéphanie Dumouche, nous avons Laurent Humbert, et puis nous avons bien sûr notre chroniqueuse Myriam. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine avec de nouveaux invités, de nouvelles thématiques. D'ici là, eh bien écoutez, passez une belle journée et à très très vite.
Prévu, les plaines, les étendues, les forêts de séquoia me laissent sans voix. De toute façon, j'en ai plus besoin depuis que tu n'es plus là. Je parle tout seul, y'a que le vent qui répond. La douleur en cascade et au ricochet elle gagne. Mes plus petits sont les ronds. Voir si j'en étais capable de partir seul en voyage. J'imaginais pas être seul. On devait partir tous les deux pour la vie, mais je fais sans toi. Ah, si je suis heureux, j'espère que toi aussi. Ma valise était prête quand t'as plié bagages. Oui, j'ai l'air un peu bête à danser sous l'orage. C'était le seul moyen d'éviter le naufrage. Seul, mon vieux radeau sur les vagues. Je vois des nouveaux visages pour oublier le tien, même si c'était un mirage. La fin du long métrage, je n'ai plus besoin de rien. J'imaginais pas
être seul ici. On devait partir tous les deux pour la vie.
J'imaginais pas être seul.
Cette chanson sans toi, j'ai pas déchiré nos pages et je les relis des fois. Et dans mon carnet de voyage, j'écris cette chanson sans toi, j'ai pas déchiré nos pages.
J'imaginais pas être seul ici.
L'émission qui met en lumière ceux qui font l'actualité à Toulouse et la région. Oh yeah. Le brunch.